Rencontre spirituelle, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose, de quelqu'un de bien spécial, Angelus Silesius, ne sais pas son véritable nom. Angelus Silesius est un nom de plume, mais il est très connu sous ce nom-là. Et il est mort en 1673. Pour faire court, disons que c'était un luthérien qui est né dans une famille luthérienne fort honorable. Et un de ses amis s'est converti au catholicisme, ça l'a un peu influencé. Son ami ou cette connaissance est entré chez les jésuites. Et lui-même, finalement, s'est converti, a écrit un ouvrage retentissant, remarquable, et qui le fait qu'il est considéré comme le dernier des grands mystiques allemands. Il a écrit « Le pèlerin chérubinique ». Et c'est un ouvrage curieux, très étrange. Et par après, il a été ordonné prêtre, et c'est donc un écrivain mystique, mais un écrivain mystique d'une très grande envergure. Il est mort donc le 9 juillet 1673, à 50 ans, il y a plus de 300 ans, quoi. Et c'est Jean-Pierre Joshua qui dit que le pèlerin chérubinique, son livre, là, est un livre bien étrange. Il dit même que c'est une création inégale, c'est juste aussi ça. C'est un mélange curieux de mystique abstraite et de piété. Il qualifie ça, lui, de rococo. Je trouve qu'il il y va pas de main morte. Je dirais que c'est une piété souvent très attachante, très lumineuse aussi. Et Jean-Pierre Joshua dit que... Là, Jean-Pierre Joshua, c'est un dominicain fameux de Paris, hein. Il déroute le lecteur qui a été fasciné par la haute flamme d'une citation superbe et qui, se reportant au recueil entier, là, le lecteur se reporte au recueil entier, mais à la fois peut s'ennuyer et se sent un peu perdu. Je ne suis pas porté à ça. Le livre m'a été offert par un vieil ami, Jean Larose, professeur à l'Université de Montréal, il y a plusieurs années. C'était un cadeau fort apprécié au début, moins parce que j'étais un peu perdu justement devant cet ouvrage, mais plus je me suis mis à le lire, plus j'y ai trouvé des choses sublimes, absolument sublimes. Une longue introduction à cet ouvrage paru chez Aubier en 1946, juste au lendemain de la guerre. Et il y a différents éléments au début. Bon, puis finalement, on a la page couverture en... la page de titre en allemand avec traduction française. C'est écrit Johannes Angelus Silesius, Jean Angelus Silesius, pèlerin chérubinique ou épigramme et maxime spirituelle pour amener à la contemplation de Dieu, pour amener à la contemplation de Dieu. C'est le but principal de cet ouvrage. Amener à la contemplation de Dieu, car il ne trouvait rien de plus important que ça. Cet homme. Il met d'ailleurs sur cette page cette citation. « L'homme contemple Dieu et la bête la terre. Par quoi chacun pourra connaître ce qu'il est ?» Et il ajoute une autre citation de la deuxième épître aux Corinthiens. « Nous tous qui contemplons visage découvert la splendeur du Seigneur, nous sommes changés en cette même image de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. » Que c'est beau, hein, les épîtres de saint Paul, c'est d'une grandeur. Il y a une dédicace aussi que j'aimerais vous lire pour vous mettre vraiment dans l'esprit de cet homme qui a écrit ce livre fameux, très illustre dans l'histoire de la littérature mystique, mais malheureusement peu connu de nos jours. Sa dédicace, c'est celle-ci. À l'éternelle sagesse, à Dieu, au miroir sans tache que contemplent les chérubins et tous esprits bienheureux, avec une admiration éternelle, à la lumière qui éclaire tous les hommes qui viennent en ce monde, au puits inépuisable, à la source jaillissante de toute sagesse. Dédie, alors il veut dire Johannes Angelus, dédie et ramène à lui ses gouttelettes tombées par grâce de sa vaste mer. Et avant de mettre son nom, il met son, son ça veut dire qu'il lui appartient, qu'il appartient à Dieu, du désir incessant de le contempler, toujours mourant. Vous savez, c'est très spécial, comme vous voyez. Et il écrit un avertissement au lecteur qui peut peut-être nous mettre tout de suite dans l'idée. Il dit, lecteur bienveillant, comme les vers que tu... Il faut dire, c'est écrit en vers, hein. Comme les vers que tu vas lire contiennent même paradoxes étranges ou paroles contradictoires, de même que des maximes très hautes et inconnues du vulgaire, inconnues du monde ordinaire, sur la déité secrète, sur ce Dieu secret, car Dieu est secret au fond. Il est révélé en Jésus-Christ, mais quand on pense à Dieu, c'est Maître Eckhart qui est un peu le maître à penser de Angelus Silesius, qui disait que tout ce qu'on dit de Dieu ne saurait être vrai, car Dieu dépasse tout ce qu'on peut dire de lui. Alors donc, je reprends cet avertissement au lecteur. Lecteur bienveillant, comme les vers que tu vas lire contiennent même paradoxes étranges ou paroles contradictoires, de même que des maximes très hautes et inconnues du vulgaire sur la déité secrète, ainsi que sur l'union avec Dieu, ou l'essence divine, et aussi sur l'égalité avec Dieu, et sur la déification ou divinisation, et d'autres choses du même ordre, auxquelles on pourrait facilement, à cause de leur forme brève, attribuer un sens condamnable, ou une intention mauvaise. Il est nécessaire que je te donne tout d'abord cet avertissement, puis il donne l'avertissement en quatre lignes, et il développe ensuite, mais je vous donne simplement les quatre lignes et demie. Et il faut donc que tu saches, une fois pour toutes, que nulle part, l'auteur, lui-même, ne prétend que l'âme humaine doive ou puisse perdre sa nature et être transformée par la déification en Dieu ou son essence incréée, ce qui est impossible pour toute l'éternité, car quoique Dieu soit tout-puissant, il ne peut faire, et s'il le pouvait, il ne serait pas Dieu, qu'une créature soit naturellement et essentiellement Dieu. Je me souviens des prédications de l'abbé Pierre Léger qui nous parlait souvent de notre divinisation. Et ça me gênait un peu. Et après avoir lu attentivement bien des passages d'Angelus Silesius, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire dans les Épîtres de saint Paul. En 1930, il y a déjà bien longtemps, près de 70 ans, quoi, Jean Baruzy avait consacré un cours au Collège de France à Paris, au fameux Collège de France, à Angelus Silesius, ça avait fait sensation. Deux conférences prononcées 15 ans plus tard, donc au lendemain de la guerre, au moment de la publication du livre que Jean Larose m'a offert, eh bien, ça a ramené l'intérêt au pèlerin chérubinique, à ce livre. Jean Baruzy s'est intéressé beaucoup à l'ouvrage. Et ces conférences ont développé et complété ce qu'on pouvait savoir un peu à cette époque. Et ce sont ces conférences qui constituent la matière de 140 pages qui ont été publiées chez l'éditeur Fernand Aubier, qui a justement publié Angelus Silesius. Et peut-être a-t-il répété, Fernand Aubier, ce grand éditeur, la publication d'ouvrages concernant cet auteur spirituel extraordinaire. Quiconque a lu dans leur texte, d'ailleurs, original, les maximes spirituelles, ou si vous préférez, le pèlerin chérubinique, est frappé non seulement par justement ce caractère paradoxal qu'admet lui-même l'auteur, qui rappelle la manière de Maître Eckhart. Je vous ai fait une émission sur Maître Eckhart, ce grand auteur spirituel extraordinaire, ce dominicain qui a vécu il y a des siècles et des siècles. Mais en même temps, on voit bien dans ce livre un accent de piété, ingénue, presque enfantine. Puis dans le dernier livre, une espèce de, je dirais, une espèce de petite violence, hein, soudaine. Un accent polémique qui est assez inattendu parce que c'est un converti au catholicisme et il s'attaque à la réforme protestante. Il n'y va pas de main morte. C'est un livre qui est sans doute l'œuvre de toute une vie. Parce que, même s'il a été écrit, semble-t-il, avant son ordination sacerdotale, il est marqué par toute sa vie. Une vie qui est partie du luthéranisme pour atteindre au catholicisme, militant de la contre-réforme. La contre-réforme, peut-être que les plus jeunes se demandent ce que c'est le mouvement dans l'Église après la réforme. La réforme, c'est quoi? C'est la réforme de grands catholiques comme Luther, Calvin et bien d'autres qui ont quitté l'Église pour réformer le christianisme et qui ont pris des tangentes diverses et qui se sont séparés, et les catholiques ont décidé de réformer l'Église, mais de l'intérieur. Il y a eu un grand concile, le concile de Trente, et c'est tout ce grand mouvement qu'on appelle la contre-réforme. Ils sont contre les séparations de l'Église en différents morceaux. Ils veulent garder l'unité, puis ils veulent réformer l'Église. Alors donc, la vie d'Angelus Silesius part du luthéranisme, il était luthérien, il est né luthérien, pour atteindre au catholicisme militant de la contre-réforme. Puis il effleure au passage des mouvements un peu plus ou moins secrets comme la Rose-Croix. Pour Angelus Silesius, l'expérience spirituelle atteint d'abord le niveau où l'homme s'assimile aux purs esprits, aux anges, aux chérubins, quoi. C'est pour ça qu'il appelle ça le pèlerin chérubinique. Nous sommes des pèlerins appelés à mieux connaître encore l'union à Dieu que les anges. C'est assez curieux. Mais elle peut tendre vers de plus hauts sommets. Et par instant, du moins, ça soulève le chrétien extatique au-delà même, dit-il, des hiérarchies célestes. Vous savez, les hiérarchies célestes, c'est les chérubins, etc., les anges selon leur hiérarchie. Et ça fait plonger le mystique dans cet insondable mystère de la déité. Celui qu'annonce le cinquième chapitre de la théologie mystique, et de qui, dit-il, l'on ne peut absolument ni rien affirmer, ni rien nier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut rien dire de Dieu, si ce n'est qu'avec des mots humains, qui ne sont que des images lointaines de ce qu'il est vraiment, car il dépasse tout entendement. Et heureusement qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, et là, on peut le contempler. On peut chercher à l'imiter, à vivre de lui. Et ainsi, c'est ce que nous allons célébrer à Noël, c'est cette joie ineffable, incroyable, de ce Dieu, pour ainsi dire inaccessible, qui se manifeste. Alors quand il publie Angelus Silesius ses maximes spirituelles, il est pour ainsi dire presque prêtre, ou il est ordonné, puis il est plus soucieux sans doute qu'à ses débuts de s'appuyer sur des autorités. Et c'est là qu'il invoque Tauler, ou le pseudo Tauler, dont je vous ai souvent parlé, Ruiz Brock, dont je vous ai parlé toute une émission, Denis le Chartreux, je prépare une émission sur lui, Jean de Blois, j'aimerais bien vous en parler, j'ai parlé d'autres mystiques de ce genre, mais il ne cite ni l'Aréopagite, dont il sait de son temps, qui n'est qu'un anonyme tardif d'ailleurs, sinon un faussaire, et puis, ni Maître Eckhart, qui a été condamné solennellement par Jean 22. Alors, pourtant, on est sûr qu'il ne les a pas ignorés. Je vous recommande d'ailleurs un livre d'Alain de Libera qui est paru il y a quelques mois. Eckhart, Suzo, Toller, j'ai parlé de ces trois dans mes émissions, ou la divinisation de l'homme. Tout ce problème qu'abordait Pierre Léger, l'abbé Pierre Léger, de la divinisation de l'homme et qui me gênait tant. Et dans ce livre publié par Bayard Édition, on y trouve une doctrine et une pensée mystique absolument admirable. Pour ceux qui s'intéressent à la mystique, c'est pas facile. Je vous disais qu'il avait été touché sans doute par les grands mystiques dont je vous ai déjà parlé, comme Ruiz Brock et Eckhart. Il serait injuste, en tous les cas, de supposer qu'il se serait contenté de simplement mettre en vers, souvent avec talent d'ailleurs, même avec génie, je dirais, des thèmes qu'il aurait hérités de ces gens-là, de ces grands mystiques qui lui ont précédé. D'ailleurs, à un moment donné, on pourrait croire qu'il exagère, Angelus Silesius, mais il ment pas lorsqu'il nous dit que les 302 maximes du premier livre, hein, C'est un ouvrage qui est divisé en plusieurs livres, ou plusieurs chapitres, si vous voulez. Il a dit que les 302 maximes du premier livre, qui est l'un des plus denses puis des mieux achevés de son ouvrage, ont jailli sous sa plume en 4 jours, d'une inspiration qui est évidemment une expérience vécue, une expérience mystique extraordinaire. Nous ignorons malheureusement à quel moment de sa vie se situe ce jaillissement vraiment. Monsieur Jean Baruzy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, professeur au Collège de France, a publié sur lui, et ça nous éclaire sur quelques-uns des conflits intérieurs de ce jeune protestant luthérien de Breslau, demi-polonais. Il était orphelin dès le tout début de son adolescence. Il était le frère d'un pauvre malade mental, même d'un aliéné. Puis, on s'attendait à ce qu'il meure de phtisie, ce pauvre Angelus Silesius, ou Jean Scheffler. Et un de ses compagnons d'études, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui était poète de talent, qui est mort à 24 ans, Andreas Scultetus, avait quitté le luthéranisme étouffant de leur collège commun pour entrer comme novice chez les jésuites de Troppau. Il mort à 24 ans, le pauvre. Mais Jean Scheffler, ou Angelus Silesius, comme je vous ai dit, c'est un pseudonyme, tout marqué qu'il est par cette conversion de son ami, il ne suit pas son exemple tout de suite. Il hésite. C'est à Strasbourg, puis à Leyde, qu'il s'initie à la vie intellectuelle de cette époque où, après la révolution la galiléenne, toute la dispute autour de Galilée, puis la pensée de Descartes qui surgit, ça émeut tous les esprits. Alors c'est ensuite à Padoue où il va étudier qu'il obtient, en 1648, 2 doctorats. Un doctorat en médecine et un doctorat en philosophie. Il est certain qu'on va accuser plus tard Silesius, au temps de sa conversion, d'avoir appartenu à des... comment est-ce qu'on appelle ça? Des petits groupes, des conventicules, comme on dit dans des vieux textes, mennonites ou anabaptistes. Il faudrait bien qu'un jour je vous explique à ceux qui savent pas ce que c'est les mennonites, les anabaptistes. Nous en avons des mennonites à Montréal qui sont très chaleureux, très bons. Ce sont des protestants très rigoureux et en même temps très doux et très désireux d'établir la paix autour d'eux et de faire que la société se transforme. Puis les anabaptistes, il aurait... Mais quand il est accusé de ça, on sait bien que sa réponse prouve seulement que ça avait été plutôt en curieux qu'autre chose, qu'il a assisté à quelques-unes de leurs réunions. Il est allé voir. Moi-même, je suis déjà allé à des réunions comme ça. Je suis allé voir. Je ne suis jamais cessé d'être catholique pour tout ça. Mais dans ce temps-là, on soupçonnait tout. Les gens étaient très soupçonneux. Je me souviens, quand j'étais jeune, il était défendu, pour ainsi dire, disait-on, d'entrer dans une église protestante. Mais on y allait. Ma mère m'y amenait, moi. Il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Pourquoi y aurait-il des problèmes? Et on ne pouvait pas deviner l'étendue exacte de la curiosité d'Angelus Silesius vis-à-vis le protestantisme, des mennonites et des anabaptistes. Puis ici, on ne sait pas combien de fois il y est allé. Peu importe, de toute façon. On sait qu'il a médité l'Aurora de Böhme. Il faudrait que je vous en parle un jour, un grand penseur, un grand spirituel, curieux, séparé, à qui il a emprunté des symboles alchimiques, d'ailleurs. Il va écrire au sujet de Böhme, fort curieusement, que c'était un de ses appuis les meilleurs dans sa marche vers l'Église catholique. Il est revenu en Silésie, donc en Autriche. Il a exercé la médecine, puisqu'il a obtenu son doctorat en médecine. Il exerce la médecine à Eöls, puis il y rencontre précisément Frankenberg. C'est très important pour lui. C'est l'éditeur de Böhme. Et ils vont devenir de très, très grands amis. Qui était probablement rosicrucien, passionné de synthèse religieuse, dans un esprit, comme on dit, infinitiste, qui rappelle par certains aspects le cardinal de Cuse, dont j'aimerais bien vous parler un jour, qui est un des cardinaux les plus fantastiques de l'histoire de l'Église pour sa pensée. Mais ça dépasse presque... On ne peut pas faire ça dans une seule émission. Et qui annonce aussi plusieurs traits de Leibniz. Mais Leibniz, ça, je vous en ai parlé le 14 novembre 96. C'était une brève amitié avec Frankenberg, là. Parce que Frankenberg meurt en 1652. Et Angelus Silesius lui a dédié un très beau poème que j'ai lu, c'est magnifique. Il est possible que plusieurs livres du Pèlerin chérubinique, plusieurs chapitres si vous voulez, datent de cette période, et c'est peut-être ce qui expliquerait certaines de leur hardiesse qui... Mais le lit n'a jamais été condamné par l'Église catholique. Il reste que Angelus Silesius n'a jamais renié de son œuvre et qui n'a jamais été l'objet... jamais rien renié de son œuvre. Et elle n'a jamais été l'objet d'aucune censure, je vous le répète. C'est donc pas un livre condamné, mais c'est un livre délicat à lire. Les notes très brèves qu'il a jointes à certaines de ses maximes, ça n'a fait dire en rien le sens. L'auteur lui-même était certainement convaincu de ce qu'il écrivait. Pour reprendre, en les renversant, les formules du pape condamnant les audaces d'Eckhart, maître Eckhart, il n'était pas besoin de beaucoup d'explications pour leur donner un sens catholique. Et pour situer la conversion de Scheffler, Angelus Silesius, qui est devenu officiel sa conversion en 1653, il n'est pas inutile de rappeler que ni le luthéranisme officiel, ni les groupes plus ou moins calvinistes, nombreux en Silésie, ne pouvaient accueillir sans mélange, n'est-ce pas, une expérience proprement mystique. Un peu de temps, d'ailleurs, après la mort de Frankenberg, l'éditeur de Böhm, celui qu'on considérait comme son héritier spirituel, Angelus Silesius, a voulu publier des textes de Sainte Gertrude et de Louis de Blois, deux des plus grands mystiques catholiques. Or, il s'est heurté aussitôt au veto résolu des autorités réformistes luthériennes et calvinistes. Comme quoi, vous savez, la censure protestante était très sévère à l'époque. Il ne faut pas s'imaginer que c'est nous seulement les catholiques qui étaient sévères. Eux aussi étaient sévères. C'était le tempérament général. Les gens étaient comme ça. On soupçonnait n'importe quoi, y compris les protestants qui pourtant prêchaient le libre examen. Alors un tempérament comme celui d'Angelus Silesius s'accommodait d'ailleurs très mal de la notion luthérienne d'une foi qui sauve le pécheur sans transformer l'homme lui-même, sans l'approcher d'une perfection qui serait une véritable déiformité, comme il disait, c'est-à-dire cette union profonde à Dieu qui fait qu'on garde toujours son individualité, mais notre union à Dieu est sublime, absolument fantastique. Il le décrit d'ailleurs. Alors, il était emporté par un certain courant de ce qu'on appelle la contre-réforme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et notre poète Angelus Silesius devient un militant qui semble se complaire à vouer ses ennemis protestants aux flammes de cet enfer dont il décrit complaisamment toutes les horreurs. Et son tempérament violent l'entraîne maintenant des polémiques, d'un ton vraiment déplaisant, à mon avis. Il faut juger, d'ailleurs, dans l'atmosphère de cette époque, hein, toujours, sans oublier sa vie spirituelle constante, puis la beauté de son œuvre, qui sont nourris du besoin d'absolu. Et après sa mort, en juillet, le 9 juillet 1673, à l'âge de 50 ans, il y a un prêtre, le père Schwartz, qui a célébré les vertus de ce prêtre et de cet ascète. Mais il ne sera aucune mention, on fait aucune mention, dans son texte du père Schwartz, du livre Le Pèlerin chérubinique. Et c'est pourtant par ce poème que Silesius va survivre dans la mémoire des hommes, à cet homme, au père Schwartz, qu'on aurait oublié depuis longtemps s'il n'avait pas fait l'oraison funèbre de Jean Scheffler d'Angelus Silesius. Alors le père Schwartz n'est connu, au fond, que par Le Pèlerin chérubinique, qu'il ne mentionne même pas dans son oraison funèbre. Quel étrange prêtre. Tout ça se déroule à une époque épouvantable. Dans Les Misères de la guerre de Jacques Callot, on peut lire, il rapporte, comme dans bien d'autres ouvrages d'ailleurs sur cette époque, on rapporte les pillages. Vous savez, on dit que notre temps est difficile. C'est une époque épouvantable. Il y a les Hells Angels, etc. C'était une époque effrayante, les pillages à ce temps-là, les tueries, les atrocités de tout genre. Il y avait des caravanes interminables de pauvres gens dépenaillés qui s'en allaient le long des routes. ne sachant plus où aller. C'est la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648. Or, Angelus Silesius est né en 1624, pendant cette guerre, 6 ans après le début de la guerre. Il ne mourra qu'en 1677, d'accord, après la fin de la guerre. Mais cette guerre de 30 ans a ravagé surtout l'Allemagne. Puis, il y a eu des épidémies qui ont succédé aux soldats. Savez-vous que l'Allemagne a perdu plus du tiers de sa population à ce moment-là? Puis on se plaint aujourd'hui. Les traités de Westphalie en 1648, qui ont mis fin à la guerre de 30 ans, ont laissé l'Allemagne non seulement exsangue, mais sur le plan politique, elle était vraiment affaiblie, morcelée, définitivement déchirée entre des confessions religieuses rivales, les chrétiens qui se disputaient entre eux. Il y avait du désespoir, du pessimisme. Il y avait un sentiment profond du néant de la vie, de la vanité du monde qui s'emparait du monde, des poètes, des écrivains, des gens. Il y avait un goût baroque pour l'excessif. C'était la lutte des contraires, on pourrait dire. Mais au creux de tout ça, il y avait une quête passionnée d'un sens caché derrière le non-sens apparent. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a un non-sens apparent, c'est pas la recherche de l'argent qui peut donner un sens à la vie. C'est pas la littérature qui peut donner un sens à notre vie. C'est quand même pas des choses comme ça. Il faut trouver un sens caché. Ce sont les réactions de nombreux contemporains de l'époque. Il y a un poète, justement, de Silésie, Andreas Gryphius, qui écrivait « Tu ne vois de partout que vanité sur terre. Ce que l'un édifie, un autre va l'abattre. Où des villes se dressent ne sera que pâture, et pâturage, quoi. Un enfant y jouera en gardant ses brebis. Magnificence en fleurs et vite piétinée. Cœur arrogant et chaud, cendres et poussière bientôt. » Mais oui, les cœurs arrogants, comme j'imagine nos Hells Angels dont on parle tellement, cœur arrogant et chaud, eh bien, cendres et poussière bientôt. Et ça va pour chacun d'entre nous quand nous sommes orgueilleux. Il écrit, ce poète, rien qui soit éternel, ni les reins, ni le marbre, et que sourit la chance, déjà gronde l'orage. Mais il continue comme ça. Ça fait vraiment, hein, qu'est-ce que vil néant, ombre, poussière et vent, etc. Or, la Silésie, en majorité protestante, elle fait alors partie de l'Autriche catholique. Et elle se trouve soumise au grand mouvement de reconquête, mené notamment par les jésuites. Et Johannes Scheffler, qui est né en 1624 à Breslau, aujourd'hui Wrocław en Pologne, d'une famille luthérienne, c'est lui notre Angelus Silesius. Étudiant en droit, comme je vous ai dit, puis en médecine, à Strasbourg, Leyde, Bologne, il revient comme médecin. Puis il s'est lié, comme je vous ai dit, avec Abraham von Frankenberg. Et je vous ai dit qu'il avait écrit un poème en son honneur à la mort de cet ami en 1652, quand Angelus Silesius a 28 ans. Je vous lis un bref passage. C'est très beau, car on voit transparaître son propre goût pour l'abandon dont je vous ai parlé hier, l'abandon, cher à tous les mystiques. Ô noble Frankenberg, te voici maintenant plongé et bien heureusement abîmé dans l'éternité comme tu l'avais souvent désiré. Tu vis maintenant libre du temps, de l'avant, de l'après, de l'espace, des peines et des luttes. Celui qui prend le temps sans temps et les peines sans peine, pour qui hier fut comme aujourd'hui, aujourd'hui vaut demain, qui fait même cas de tout, celui-là pénètre dès le temps dans l'état désiré de la douce éternité. Ça peut vous sembler compliqué, mais ça veut dire simplement que celui qui passe à travers le temps sans considérer que c'est du temps. Qui passe à travers les peines sans considérer que ce sont des peines. Pour qui, hier, ben c'est comme aujourd'hui, puis c'est toujours, ce qui compte, c'est le moment présent. Celui-là pénètre, dès aujourd'hui, quand il est dans le temps, ben celui-là pénètre dans l'état désiré de la douce éternité, l'état qu'on désire obtenir auprès de Dieu, dans le sein de Dieu, près du cœur de Dieu, en compagnie de la Trinité et de tous les saints, avec Marie. Et parmi les livres que lui a légués Frankenberg, Scheffler lit avidement Böhm, comme je vous avais dit tout à l'heure, puisqu'il en était l'éditeur, et Rusbrock, Toller, Suzo, mais aussi Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, hein, j'avais oublié de vous le mentionner tout à l'heure. Et il avait souhaité en publier des extraits traduits en allemand, mais ça lui a été défendu par les autorités protestantes. Il faudrait bien connaître, en tous les cas, le milieu très particulier qui était celui de Johannes Scheffler, Angelus Silesius. C'est surtout les courants dont il dépend. Il est né protestant et c'est pas facile pour lui. Il fait ses études de médecine et il est initié alors dans les cercles mystiques luthériens de tendance ésotérique où domine la belle figure de Frankenberg. Là, il découvre le genre littéraire original qui va illustrer dans le chérubin, dans le pèlerin chérubinique, son livre. Il s'agit de ce, dans ce livre, je vous l'ai dit un peu, mais je vous l'explique davantage. Ce sont des aphorismes, des proverbes en vers de 12 pieds. Ce sont des petits distiques, des épigrammes rimés, dans lesquels il y a une sagesse spirituelle qui se condense. En 1553, il devient catholique, vous le savez, prend le nom d'Angelus Silesius, il publie donc en 1657 les 5 premiers livres de ses aphorismes spirituels. Il est ordonné prêtre. Il écrit plusieurs autres ouvrages mystiques aussi, puis des pamphlets confessionnels. J'ai pas le temps de vous parler de tous ces livres. Même en 1675, il y a une 2e édition de son œuvre principale qui comporte maintenant un 6e livre. Et c'est là que ça s'appelle vraiment « Le pèlerin chérubinique ». Les 2 premiers livres sont surtout marqués par l'influence de Toller, de Suzo, dont je vous ai déjà parlé, de Rusbrock aussi, et à travers eux de Maître Eckhart, puis il y a Louis de Blois, Arfius aussi, mais aussi la mystique allemande de Jacob Böhm. Ils donnent l'impression, ces gens-là, on peut dire, que Scheffler s'est brusquement délivré de tout un savoir de mystique spéculative. Ses connaissances semblent surgir qu'il est un brillant disciple, au fond. Il y dit la transcendance de Dieu jusqu'à l'appeler néant. Mais il faut bien comprendre, néant dans le sens qu'on ne peut pas le connaître, autrement qu'en Jésus-Christ. Il parle de l'omniprésence de Dieu jusqu'à sembler frôler le panthéisme. Il parle de l'unité mystique avec lui, la connaissance par identification, mais qui est obtenue par la grâce. Les saints sont tous arrivés à cette union mystique. Il n'y a pas un saint qui devient saint sans cette union mystique avec Dieu. C'est pas possible. Il parle aussi du détachement radical nécessaire. Il parle aussi du rien de la créature. Nous nous pensons bien importants, mais nous ne sommes qu'au fond que rien si ce n'est que des créatures de Dieu que Dieu aime. Et nous ne devenons que à l'image de Dieu que quelqu'un. Et encore, c'est tout grâce à Dieu et à ce oui que l'on donne à Dieu comme la Vierge. Il parle de l'amour totalement désintéressé, quasiment passif. Il parle aussi de l'inspiration directe. Tout cela en des images baroques, tantôt superbes, tantôt marquées par le goût du jour ou la vogue alchimique. Mais il annonce déjà l'ascenseur divin de Thérèse de Lisieux, dont je vous ai parlé quand je vous ai fait plusieurs émissions sur Thérèse de Lisieux à l'occasion du centenaire de sa mort. Hein? Oui, il parle de l'ascenseur divin. Je sais pas si elle est allée pêcher ça là-dedans. Elle. Certainement pas. Puis les livres suivants sont plutôt christologiques, plus bibliques, plus piétistes, plus antiprotestants aussi. Ils offrent au thème précédent le contrepoids de l'incarnation. avec une consistance humaine qu'elle implique, hein, de la liberté, de la dignité de l'homme, de la noblesse du temps, de la beauté des créatures qui deviennent symboles du divin. Ah, puis il insiste beaucoup sur le primat de l'amour sur la connaissance. Hein. Très bien de connaître toutes sortes de choses. Mais si on n'aime pas, c'est vide. C'est dans saint Paul, hein, il le dit, nous sommes des cymbales retentissantes si nous n'aimons pas. Alors, le primat de l'amour pour lui sur la connaissance est très important. Ça assure le lien entre tout ce qu'il écrit. Il y a une deuxième difficulté à lire ce livre, c'est qu'il faut aller choisir des choses. Je vous recommanderais un article de Jean-Pierre Joshua sur Angelus Silesius, paru dans La Vie spirituelle, vous trouverez ça dans des bibliothèques peut-être. C'est une revue extrêmement importante, publiée par les Dominicains de Paris, La Vie spirituelle, septembre-octobre 1983. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle un florilège, des extraits. En voici un extrait. C'est le texte même d'Angelus Silesius. « Si Dieu ne veut pas me mener plus haut que Dieu, je l'y contraindrai simplement par l'amour. » Ça rappelle un peu Thérèse, l'enfant Jésus. Qui va se soucier d'atteindre la sur-déité, hein, de dépasser Dieu? Mais ce qu'on veut dépasser, c'est les images reçues, convenues de Dieu. On voudrait, au fond de notre cœur, chacun d'entre nous, je pense, le découvrir dans toute sa grandeur. Car nous avons des images de vieux barbus, des images d'un Dieu vengeur, des images de toutes sortes. Il faudrait dépasser ça. Et qu'est-ce qui nous est donné dans cet effort, sinon l'amour qui fait surgir en nous pour lui? C'est l'Esprit Saint qui crie en nous l'amour. C'est un amour humain que nous avons, mais il est nourri par l'Esprit Saint. C'est la seule trace en ce monde de sa présence. Quand on aime, nous laissons la trace de Dieu sur cette terre. C'est pour ça que je dis qu'on peut bien applaudir Jacques Villeneuve, acheter des livres où il est à moitié nu, et toutes ces choses insensées. Mais je trouve 100 fois plus beau, 1000 fois plus beau, un jeune homme du même âge. Et je vous l'ai déjà dit, assis dans les quartiers pauvres de Montréal, à côté d'un itinérant, et qui essaie d'aider cet itinérant, et qui essaie de l'aimer, de cet amour de Dieu. Car là, il y a la présence de Dieu. Et c'est ça, la trace de Dieu que nous pouvons laisser. Il écrit aussi, Angelus Silesius, « Dieu ne donne rien à personne, il s'offre à tous. Entier, il sera à toi, si seulement tu le veux. » Je répète parce que c'est trop beau. Rarement lit-on de choses aussi belles. Dieu ne donne rien à personne. Il s'offre à tous. Entier, il sera à toi, si seulement tu le veux. C'est tellement beau que je reviens à des extraits du Pèlerin chérubinique d'Angelus Silesius. Dans le premier livre, le numéro 40, Dieu est grande merveille, écrit Angelus Silesius. Oui, Dieu est grande merveille. Étant tout ce qu'il veut, il veut tout ce qu'il est, sans mesure et sans but. Ça m'a pris du temps avant de saisir le sens. Il y a une possibilité infinie, toujours libre, toujours ouverte. Et cependant, possibilité accomplie, heureuse. C'est le sans but, énigmatique, disant mieux que toute la grandeur démesurée, incompréhensible au fond, à condition d'ajouter, il n'est pas sans fin car il te cherche. Il dit ça toujours dans le premier livre, au numéro 277. Il n'est pas sans fin car il te cherche, c'est-à-dire il n'est pas sans but car il te cherche. Dieu nous cherche. Dieu nous cherche à chaque instant. Dieu est à la recherche de chacun de nous. Il écrit aussi au numéro 55 du premier livre, « Ne crie pas vers Dieu, car la source est en toi. Hein? Pourquoi dire le bonhomme d'en haut, le gars d'en haut? Des expressions épouvantables. Je blâme pas les gens qui disent ça, c'est naïf, c'est pas de leur faute. On leur enseigne pas les vérités, que Dieu les habite. Ne crie pas vers Dieu, car la source est en toi. Est en toi. Si tu n'en combles l'issue, elle coule à jamais. En somme, il faut, pour ainsi dire, enfermer Dieu en soi. Comment combler l'issue? Comment boucher le trou, si on veut, pour pas que Dieu se répande? Il faut le garder par la cèse. Mais par contre, il faut savoir aussi donner Dieu et le répandre. Et c'est une contradiction presque. Il y a une expérience chrétienne dans tout ça. C'est l'impulsion à aimer, puis la liberté jaillissante, l'élan de la prière. Il faut pourtant espérer que cette source irrigue en nous bien au-delà de ce qui nous est donné de ressentir. C'est bien beau de posséder Dieu dans un sens. On peut dire qu'on possède Dieu, que Dieu nous habite. Mais encore faut-il ouvrir les vannes. Angelus Silesius écrit « Dieu est la plus pauvre des choses, entièrement nue et libre. Aussi ai-je raison de dire la pauvreté divine. » Ça rejoint François Varillon. Hein? Alors on comprend alors qu'il nous est demandé de nous dépouiller de la vanité pour accéder à ce qui est essentiel. Et cela, en ce monde, dans notre vie d'homme, dans notre corps, et non pas en nous promenant en dehors de ce qui est humain. Pas agir comme des animaux. L'abîme de mon esprit, écrit Angelus Silesius, s'appelle toujours à grand cri l'abîme de Dieu. Dit quel est le plus profond. C'est assez beau, ça. L'abîme de mon esprit appelle toujours à grand cri l'abîme de Dieu. Dit quel est le plus profond. Et la possibilité de l'infini en moi, est-ce que c'est un manque? Que seul comble la reconnaissance d'un absolu qui est Dieu vivant. Et il me fait rentrer dans son repos. Les gens sont tellement vidés de tout parce qu'ils ont laissé la place à des colifichets, à des insignifiances, et on est tous pécheurs, puis on l'a tous fait, puis moi le premier. Nous sommes remplis de toutes sortes de choses idiotes qui prennent la place de Dieu, finalement. Mais seul comble la reconnaissance d'un absolu vivant. Seul comble le vide, le manque de la reconnaissance de Dieu. Et quand on reconnaît Dieu, il nous fait entrer dans son repos. Il a écrit aussi, « Si tu es né de Dieu, Dieu fleurira en toi. Sa divinité, ta sève sera. » Et ta parure. C'est très beau. Hein? Si nous sommes nés de Dieu, Dieu va fleurir en nous. Hein? Et sa divinité sera la sève, le sang bouillonnant en nous. Et il sera notre parure. C'est une façon de parler qui est très différente de la nôtre aujourd'hui. Il dit aussi, je dois être soleil et de mes rayons peindre la mer sans couleur de la divinité. La mer est sans couleur, alors je vais la peindre des rayons de la divinité qui vont surgir de moi parce que je serai soleil. Comment être soleil si ce n'est qu'en étant uni à Dieu? Le ciel est en toi, écrit-il, comme aussi les tourments de l'enfer. Ce que tu choisis et veux, partout tu trouveras. C'est toujours ce combat intérieur, hein, entre le ciel et l'enfer en nous, qui est exprimé ici dans deux lignes magnifiques. Ce sont des poèmes. Le ciel est en toi comme aussi les tourments de l'enfer. Ce que tu choisis et veux, partout tu trouveras. Il écrit aussi, la créature est plus en Dieu qu'en elle-même. Qu'elle périsse, toujours elle demeure en lui. Oui, parce que de Dieu seul, la mémoire est créatrice. Un Dieu, non des morts, mais des vivants, hein, c'est dans Matthieu, chapitre 22. Une création qui a sa face de destruction de l'égoïsme, de libération de ce qui nous englue. Meurs avant que tu ne meures, afin que tu puisses ne pas mourir, quand tu devras périr, écrit-il au livre 4. En somme, les vies gâchées, perdues. Est-ce qu'elles vont fleurir enfin? C'est ce qu'il nous laisse comme espérance. Il écrit aussi, j'adore Dieu avec Dieu, grâce à lui et en lui. Esprit, parole, psaume, tout ce qui naît en moi, il l'est. C'est sublime, mais encore faut-il avoir le goût de lire de telles choses. Dieu se vêt de lumière. Si elle te fait défaut, sache que tu n'as point perdu Dieu lui-même. Et puis, les anges chantent bien, mais je sais que ton chant, si tu te tais vraiment, sonne plus doux pour ton Dieu. En somme, modeste est la prière, toute petite, née dans la ligne des psaumes, puis dans la façon de prier de Jésus. Comme dit le psaume 131, « Auprès de toi, en paix et silence, comme un enfant sevré. » Il y a tellement de belles choses dans ce livre que il serait bien long de vous en faire part de tout. Il y a trop de choses.